Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier rendez-vous avec Alexandra, une émission donc qui démarre aujourd'hui avec Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. Bonjour Jacqueline.
Bonjour et merci.
De rien, c'est un plaisir de parler de cette femme grande exploratrice et où il y a tellement de choses à dire. Donc on fera plusieurs émissions régulières d'une trentaine de minutes sur Fréquence Mistral.
Avec plaisir.
Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de son enfance, de sa famille. Qui est-elle enfant ?
Oui, parce qu'elle va se construire en fait depuis son enfance. Elle se construit, elle construit sa personnalité. Et je trouve que c'est intéressant, c'est peut-être moins connu, c'est intéressant de repartir finalement du début. Parce qu'on connaît, évidemment, on connaît dans le monde entier hein, cette femme grande exploratrice, celle qui est rentrée aussi, pour la première femme qui est rentrée à Lhasa au Tibet. Bon, voilà. Mais il y a tellement de choses aussi à dire sur cette intellectuelle qu'était Alexandra David-Nel. Alors, Alexandra, née à Saint-Mandé, c'est-à-dire près de Paris, à Paris, en 1868. D'ailleurs, elle naît, premier détail, elle s'appelle Louise Eugénie Alexandrine Marie David. Et c'est amusant parce que déjà, avec son prénom ses prénoms de naissance, les gens disent pourquoi elle a choisi Alexandra. Mais tout au long, pas de sa vie, mais en tout cas dans la première partie de toute sa jeunesse, de tout ce qu'elle a fait pendant sa jeunesse, elle va prendre plein de pseudonymes, comme ça, pour écrire, puisqu'elle est journaliste à un moment, elle veut publier aussi un roman, etc. On en parlera, sous différents noms. Et quand elle chante aussi, elle prend des pseudonymes. Alors déjà, Alexandra, on n'a jamais trouvé encore... dans les archives, on n'a pas retrouvé pourquoi elle choisit de s'appeler Alexandra. En fait, on trouve cela dans les correspondances de ses parents. Ses parents l'appellent plutôt Nini. Donc, apparemment, ils avaient choisi Eugénie. Mais vous savez, alors que son premier prénom, c'est Louise. Mais vous savez que très souvent, ça, c'est superstitieux. Et sa mère était très superstitieuse, ce qui, évidemment, elle moquait. Elle se moquait, oui, de sa mère, mais on va le voir hein, souvent. Et donc souvent, on utilise le deuxième prénom, c'est par superstition, pour que les esprits ne viennent pas attaquer, en général, le prénom qui arrive en premier. Voilà, donc, mais on va toujours parler d'Alexandra, bien entendu. Donc, elle naît à Paris, et ces jours-ci, il n'y a pas longtemps, oui, c'est au début de semaine... Un habitant de Saint-Mandé a eu la gentillesse de nous envoyer la photographie de sa maison à Saint-Mandé avec un petit panneau qui a été mis récemment dans la ville pour rappeler qu'Alexandra est née dans cette maison. Alors, elle est la fille de Louis David. Louis David, c'est vraiment un personnage, moi, qui m'intéresse beaucoup, qui est vraiment un personnage extrêmement intéressant. Il est né en 1815, c'est-à-dire quand Alexandra est née, il avait 53 ans. Ses parents étaient âgés, sa mère avait 36 ans, donc c'est pas âgé, mais on est en 1868. Hein. Et son père, donc, avait 53 ans. Son père, c'est un intellectuel. Il est instituteur. Mais il était profondément républicain et donc, évidemment, sous la royauté, ça faisait vraiment mauvais genre. En plus, il était franc-maçon. De même que son grand-père, qui s'appelait Pierre David, qui était aussi instituteur, mais qui avait été officier d'Empire. Donc, vous voyez, avec elle, on remonte avec sa famille, on va remonter vraiment au XVIIIe siècle. Hein. C'est assez étonnant, ça. Et il était franc-maçon aussi, tandis que son arrière-grand-père, lui, était charpentier. Donc son père, intellectuel, instituteur, sous la royauté, et donc il est révoqué. Alors il va écrire, il va devenir, on dirait aujourd'hui, pigiste. Hein. Il va être un peu journaliste, mais c'est très difficile. Sous l'Empire, comment faire, enfin pas sous l'Empire, sous la royauté, comment faire pour écrire dans un journal qui accepte ses articles. Puis arrive 1848. La Seconde République. Alors évidemment, il applaudit comme tous les républicains de l'époque à la naissance donc de la Seconde République. Mais vous savez que ça va pas durer longtemps puisque en 1851, c'était Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu du grand Napoléon, qui était président de la République. Il avait été élu. Et donc, il va réduire peu à peu toutes les libertés, et notamment, il va révoquer la Constitution. Ça nous rapproche des basalpins, hein, puisque à peu près 10 000 basalpins se sont insurgés contre ce coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, il en fait partie. Et donc, il va devoir, quand le Napoléon III va se faire... il va devenir empereur, hein, c'est lui qui le décide. Mais tous ceux qui avaient été contre lui lors de la révocation, eh bien, lui aussi, il va devoir s'exiler. Vous savez que de nombreux basalpins aussi, notamment, ont été alors punis, hein, partis en Algérie, etc. Et d'autres ont été obligés aussi de s'exiler. Et il choisit la Belgique. Et c'est là qu'il va le rencontrer... sa femme, Alexandrine. Et puis, quand l'empereur Napoléon III va gracier tous les exilés, eh bien, il va revenir à nouveau à Paris. Et c'est pour cela qu'Alexandra naît à Paris. Pas très longtemps, d'ailleurs, parce que, évidemment, sous le Second Empire... C'est la même chose. Il ne va pas trouver de travail. Il ne va pas trouver à continuer ni son premier travail d'instituteur, ni celui de journaliste. Donc, Alexandra va naître, effectivement, en 1868, va naître à Paris. Mais elle a environ 5 ans quand ils repartent avec toute la famille. Hein, ils repartent en Belgique. Et en fait, toute son enfance va se dérouler... en Belgique.
Elle a des frères et sœurs ?
Non. Elle avait eu, après elle, ils ont eu un petit garçon qui est mort pratiquement à la naissance, je crois. Donc elle va rester fille unique. Avec des parents qu'elle juge de manière très sévère, même après, hein, quand elle est adulte. Alors, elle disait de son père, ça c'est intéressant, donc là je cite... Mon père était anti-religieux à bloc, anti-clérical à bloc. Et alors, il était aussi anti-féministe à bloc. L'éducation de sa fille ne l'intéressait pas, pourvu qu'on lui apprenne ce qu'il fallait savoir. Et ça ne l'intéressait pas beaucoup. Après, mon père s'est trouvé attrapé parce que c'est moi qui lui ressemblais. C'est un jugement très sévère, mais elle est comme cela, Alexandra. Et de sa mère, c'est pire. Je vous cite aussi un passage pour vraiment voir comment elle vivait avec ses parents. Elle détestait vivre avec ses parents. Et elle écrit, beaucoup plus tard, hein, « Durant la grossesse dont je suis l'issue, ma mère occupa ses loisirs à lire Fenimore Cooper, c'est-à-dire le dernier des Mohicans. Cette placide personne, très façonnée par son hérédité hollandaise, grosse matrone, aimait les aventures à condition de ne pas les vivre. La dureté de ma mère, son manque absolu de bonté, je m'en suis rendu compte que très tard, étant déjà femme et ayant vu le monde. Enfant, je croyais naïvement, les éléments de comparaison me manquant, que tous les parents étaient semblables, et je me rappelle cette pensée qui me revenait sans cesse quand j'étais fillette. Pourquoi a-t-on des parents ? Comme l'on serait heureux si l'on n'en avait pas. Donc, c'est vraiment... C'est dur.
Ouais.
C'est dur et, je pense, souvent injuste. Mais elle préférait le pensionnat, quand elle a un peu grandi, elle préférait le pensionnat à la maison. Elle disait, mon ami, si tu savais, non, et mon pensionnat était mon vrai home, où je me plaisais. Tout cela, sans doute, était très bien pour moi, et je suis sortie de la très différente de caractère de ce que j'aurais pu être autrement. Bon, voilà. Alors, très mauvaise opinion de sa mère, son père un peu moins quand même, parce qu'elle n'était pas sotte, elle comprenait bien que c'était aussi un intellectuel, son père, mais quand même, hein, il y avait une espèce de... il y avait un rejet de ses parents. Elle disait aussi sur... à propos du mariage de ses parents. Elle a dit, elle écrit ça à Philippe Nel dans la nombreuse correspondance avec son mari. Elle lui dit, mon ami, si tu savais la terreur que j'ai d'une existence comme celle de mes parents, deux statues qui sont restées plus de 50 ans en face l'un de l'autre, aussi étrangères maintenant que le premier jour de leur rencontre, sans aucun lien d'esprit et de cœur. Je trouve que c'est d'une grande injustice. Enfin, évidemment, elle le ressentait comme ça, on ne peut pas lui en vouloir. Mais que c'est d'une grande injustice. Et il y a une lettre, vous savez, les archives, pour moi, c'est évidemment... je suis archiviste.
Hein, oui, oui, oui.
Bon, évidemment, donc, complètement essentiel. Et j'ai lu une lettre de Louis David à sa femme, Alexandrine. Et c'était en 1870. Il était retourné à Paris pour vivre la naissance de la Troisième République, le 4 septembre 1870, pour vivre la proclamation. Et donc, il est à Paris et il lui raconte, il écrit à Alexandrine pour lui raconter comment ça se passe. Et il lui dit cette petite phrase, « Hier, Paris était splendide. Toute la population était descendue dans la rue. Tout cela formait un spectacle grandiose qui remuait profondément. Un bonheur me manquait, chère femme, c'est de te montrer ce grand peuple de Paris dans l'ivresse de sa joie. Oui, j'ai ressenti ce vide de ne pas te voir serré auprès de moi. Ce grand spectacle, j'aurais été mille fois heureux de te le montrer. » Donc oui, quand elle parle de l'indifférence de ses parents l'un envers l'autre et qu'elle ne voudrait pas avoir cette vie, qu'ils ne se sont pas parlé, etc. Cette lettre-là montre bien que ce n'est pas juste. Mais peut-être est-ce que c'est le fait des enfants qui ne savent pas tout et qui ne voient pas tout. Elle ne voyait que ce mauvais côté des choses. Alors, non seulement elle aime le pensionnat, mais elle aime aussi la lecture. Et ça aussi, ça l'a forgé, ça lui a donné des idées, puisqu'elle lit Jules Verne. Elle l'écrit, cela. Jules Verne a été, en fait, son échappatoire. Hein, la façon... Elle s'est dit, mais oui, il y a une solution. On peut partir, on peut aller voir ailleurs comment tout cela se passe. Et c'est vrai, parce qu'on en a la preuve dans les archives. Elle faisait acheter à ses parents, sans doute. Jules Verne, vous savez, à ce moment-là, c'était la mode. Ça paraissait en feuilleton. Et donc, des feuillets libres à part. Et plus tard, elle les a elle-même cousus, elle les a elle-même reliés. Et tout ça, elle les a toujours ramenés, puisque c'était à Paris, c'était chez Philippe. Ensuite, elle a récupéré tout cela à Digne, hein, lorsqu'elle achète sa maison. Et donc, ça fait partie de ses archives. Vous savez, elle ne s'embarrassait pas avec ce qui ne l'intéressait pas. Elle jetait ce qui ne l'intéressait pas. Mais ça, elle les a toujours conservées. Donc, l'importance de Jules Verne, comme il a été important pour tout, je pense, tous les enfants de ce début, de cette fin du 19e au début du 20e. Donc voilà, elle passait aussi son temps en lecture. Et je pense que tout cela... ça a forgé, ça l'a conduite vers son désir, son souhait de partir et d'aller voir ailleurs. Alors que dire encore de cette enfance, plutôt de sa jeunesse? Elle est curieuse aussi des religions. Alors là aussi, il faut...
Elle est catholique,
Alors, elle est catholique par sa mère, dont elle dit évidemment encore du mal en disant que c'est une dévote, une bigote. Elle dit ça après 15 ans. Donc elle est baptisée et elle fait sa communion. Et à 15 ans, elle rejette tout cela. Ce qu'elle n'aime pas et ce qui va durer encore toute sa vie, en fait, elle rejette les rites. Il faut lire, par exemple, L'Inde où j'ai vécu, où elle critique tous ces rites du bouddhisme aussi, qu'il y en a. Être dans le bouddhisme, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Hein. C'est évidemment la méditation, l'intellect. Hein. Mais elle déteste les rites. Et donc, pourtant, je le dirai aussi, comment elle revient parfois là-dessus. Et elle va se pencher sur la religion de son père. Son père est protestant. C'est une famille d'origine huguenote. Et donc, il est protestant. Et elle va se tourner vers la religion de son père, qui va peut-être plus lui correspondre, mais qu'elle va aussi rejeter. Et là, elle va chercher à comprendre les religions en général. Alors, un bémol quand même pour ce qui concerne la religion catholique, c'est qu'elle dit, elle écrit ça, mais lorsqu'elle est adulte, pourtant, lorsqu'elle passe devant une église ou une cathédrale, et lorsqu'elle entend l'orgue, alors il faut dire, mais on en parlera dans une autre émission, son amour de la musique aussi. Et là, elle ne résiste pas, alors qu'elle s'était dit que plus jamais elle ne rentrerait dans une église. Et là, elle dit, je ne peux pas m'empêcher, je me retiens, et finalement, je rentre. Et là, je m'agenouille et j'ai envie de prier. Donc, voilà, c'est cette éducation aussi qu'elle a eue de par sa mère.
C'était à quel âge qu'elle a ce désir de rentrer dans cette église?
Adulte, c'est-à-dire... quand elle avait vraiment rejeté tout cela, elle est rentrée chez les théosophes. Quand elle avait 21 ans, parce qu'il fallait qu'elle puisse le décider, son père ne voulait pas. Et donc à 21 ans, elle rentre en théosophie pour comprendre les systèmes religieux, en fait. Hein. Donc elle dit ça, elle doit être à Paris à ce moment-là, donc elle est... Elle est jeune adulte, mais adulte quand même, voilà. Et donc, je ne sais plus, là, j'ai perdu mon fil. La religion, oui, pour elle, ça a quand même été très, très important hein, de comprendre tout ça. Mais elle intellectualise, en fait, depuis le départ, on peut dire... On peut dire tout cela. Donc, il y a ça. Elle va aussi, mais on pourra peut-être en reparler, mais la théosophie, c'est là qu'elle va rencontrer peut-être son premier amour, enfin, celui qu'on connaît, mais peut-être qu'elle en a eu d'autres, ça, on ne peut pas savoir, mais celui qu'on connaît, c'est Jean Hoston. Elle le rencontre
avec qui elle a chanté.
Avec qui elle a chanté, bien sûr, parce que c'était un musicien.
Et compositeur. C'est lui qui a composé son opéra.
Ouais. Absolument, c'est cela. Mais en fait, elle va le rencontrer au club de théosophie, et c'est lui qui va l'amener au club anarchiste où elle va rencontrer Élisée Reclus, qui a été une rencontre extrêmement importante pour elle. Encore une fois, un intellectuel, anarchiste. Mais son père ne l'était-il pas? même s'il ne faisait pas partie de mais ses réflexions. Je vais vous en lire quand même une ligne aussi de ce que disait son père. Nous serons obligés pendant bien des siècles encore de nous contenter des réformes partielles puisque notre nature nous a amenés à vivre par groupe. Nous devrons donc forcément arriver à de mutuelles concessions pour ne pas toujours supporter la loi du plus fort. Donc, c'est vraiment un intellectuel qui réfléchit, qui...
Ils réfléchissent tous, les intellectuels. Ils réfléchissent
tous. Oui, bien sûr, bien entendu, bien sûr. Mais je veux dire, quand elle dit des choses pas très gentilles sur son père, sur sa mère, c'est un peu différent. Je vais vous en parler, d'ailleurs. On a encore un peu de temps.
On a encore un peu de temps, si on choisit ce temps.
Pour ne pas s'égarer dans d'autres... Parce qu'on pourrait parler d'elle pendant des heures.
Hein, oui, mais, oui.
Donc, sa mère... Sa mère, Alexandrine, donc, elle est née fille naturelle, c'est-à-dire elle n'a pas connu son père. Puis sa mère s'est mariée avec quelqu'un qui était, qui avait une situation assez bonne, qui a eu d'autres enfants ensuite avec sa mère, avec la mère d'Alexandra. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sa grand-mère, Alexandra, finalement, elle était fille, la mère, elle, oui, c'est ça, la grand-mère, était fille, enfant trouvé, qui avait été adoptée par un couple qui n'avait pas d'enfant, bien sûr, et qui ensuite l'a fait héritière. C'est-à-dire que le peu d'argent, finalement, parce qu'il y a toujours aussi cette réflexion, et je l'ai encore entendue dimanche dernier, on dit, c'est curieux, cette femme qui était très riche et qui fait payer à son mari son voyage, son premier voyage, ce qui est complètement faux. Bien sûr qu'elle n'était pas riche. Sa mère avait touché donc un petit héritage de par sa propre mère et avait pu acheter une petite boutique de mercerie. En Belgique, hein, toujours à Issel, en fait, juste à côté de Bruxelles. Et donc, quand ils ont pris leur retraite, qu'ils étaient âgés, ils ont vendu cette petite mercerie. Et son père, qui n'y connaissait rien à la finance, a placé cet argent. Évidemment, il l'a mal placé. Voilà. Et donc, il a perdu beaucoup. Ce qui restait, elle l'avait confié. Donc ça, c'était au début des années 1900. Elle l'avait confié à Philippe de placer le peu qui restait de cet héritage. Donc, vous voyez, c'est important de le dire parce que souvent, on entend cette réflexion, elle était riche. Non. Elle n'était pas riche. Et dès sa jeunesse, elle veut être indépendante financièrement pour pouvoir réaliser ce qu'elle a envie de faire, c'est-à-dire étudier puis voyager, parce qu'elle n'a pas d'argent. Et donc, il faut qu'elle trouve un travail. C'est comme ça qu'elle deviendra cantatrice. Elle n'a pas d'argent. Ses parents sont pauvres. Son père écrit même... Quand elle était journaliste, envoie-moi tes articles parce que je ne peux pas acheter les journaux. Donc, ses parents vivaient très chichement, de manière extrêmement modeste. Sa mère, je pense, n'était pas comme son père une intellectuelle. Ça, je ne pense pas. Alors, c'est pour ça qu'elle dit beaucoup plus de mal. Que sur son père, finalement, parce qu'elle est bien consciente que son père était plus proche d'elle, finalement, et des idées qu'elle voulait mettre en œuvre. Encore une phrase sur sa mère. « La dureté de ma mère, son manque absolu de bonté. » Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Il y a d'autres choses qu'elle disait que je n'ai peut-être pas notées là aujourd'hui sur sa mère. En tout cas, tout sauf lui ressembler. Et le fait aussi qu'Alexandra n'ait pas voulu d'enfant. Certainement pour... Enfin, là, je donne mon avis. Hein, mais bon, ce que je peux retenir de tout ce qu'elle a pu écrire et penser, certainement pour réaliser, ça c'est sûr, pour réaliser son souhait de voyager, d'apprendre, de voyager et d'aller en Asie, parce que très tôt, c'est l'Asie qu'elle avait envie de découvrir et de travailler. Sans doute cela, mais pas uniquement. Je pense que l'exemple de sa mère ne la satisfaisait pas du tout. Elle ne voulait absolument pas de lui ressembler. Ça, elle le dit, elle le redit, elle l'écrit, elle le réécrit. Et très tôt, elle décide de ne pas avoir d'enfant. Et on parlera dans une autre émission de son féminisme. Et là, il y a des choses extrêmement intéressantes et qui permettent de l'approcher au plus près. En fait, les archives, hein, ça sert bien à ça, hein, les écrits, parce qu'il y a ce qu'elle a publié, mais il y a aussi tout ce qui n'est pas publié. Il y a les lettres, il y a les notes, il y a ses carnets. Elle note énormément, énormément de choses sur ses carnets. Et donc, tout ça nous permet peut-être d'approcher, parce que la vérité vraie, c'est beaucoup plus difficile, mais d'approcher en tout cas la vérité.
Cette femme vous a toujours captivée, intéressée. En quoi elle vous a intéressée au point d'en faire une association
Alors, à 14 ans, c'est le hasard. Hein. Moi, j'habitais Tours. D'ailleurs, je note que Louis David est né à Tours. Et quand j'ai trouvé ça, j'étais très contente. Mais ça, c'est de nos jours. J'avais 14 ans, j'étais au lycée et ma professeure de lettres était aussi bouquiniste. Elle a eu une grande importance dans mes choix de vie d'ailleurs. Et pour la kermesse du lycée, laïque, hein, elle offrait des invendus des bouquinistes, de sa boutique bouquiniste. Et parmi ceux-là, c'est-à-dire ils étaient pas très beaux, voilà... Et j'ai regardé, évidemment, parce que les livres me passionnaient. Et je vois ce livre que j'ai toujours, publié en 1955, « Voyage d'une Parisienne à Lhasa », qui n'a pas de couverture, hein, que j'ai acheté un franc. C'était vraiment toute ma fortune. Et là, je me suis dit, ça a enchanté vraiment mon adolescence, parce que mes parents, on partait jamais en vacances, mes parents n'étaient vraiment pas riches. Et je me disais, c'est possible. C'est possible de partir ailleurs, de découvrir. Il y a d'autres mondes, en fait. Hein, mm-hmm. C'est cela. Et c'est le point de départ. Et puis, voilà, j'en ai tout le temps parlé autour de moi. J'ai traîné mon livre partout. Et quand je suis arrivée par le hasard d'une nomination aux archives départementales, je découvre qu'elle a fini sa vie. Enfin, elle a acheté en 1928, hein, quand même très longtemps. Elle a vécu à Digne. Et là, ça a été une découverte extraordinaire et j'ai découvert plein d'autres facettes que Voyage d'une Parisienne à Lhasa.
Jacqueline Hirsch, merci pour ce premier volet donc, de cette émission qui va être régulière sur notre antenne. Rendez-vous avec Alexandra. Donc, le prochain rendez-vous, ce sera autour de la féministe qu'elle était. Merci.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir.